mais je connais. Ils ont donc le chapitre 13 de l'évangile de Jean. Celui qui mange le pain avec moi, Jean 13, est un talent contre moi. Je vous le dis dès maintenant. Auparavant, la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, en vérité, je vous dis, ce monde, mon Père, quelqu'un, et il a aimé les siens qui étaient dans le monde, celui qui me reçoit, et moi, alors celui qui m'a envoyé. Ayant dit cela, qu'il était accepté, ce diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, dit, en vérité, je vous dis que Jésus, sachant que le Père lui avait dit, il faut regarder donc les uns les autres, qui étaient venus de Dieu, sachant que cela fut soupé et met de côté ses vêtements morts, ayant pris un linge sur ses disciples, que Jésus, il verse de l'eau dans le bassin, dans le semis, à la à table, dans le sein de Jésus, il a essuyé avec le linge en pierre, donc lui fait signe de demander le bien donc à Simon Pierre, et celui-ci lui dit, lui s'est enseigné sur la poitrine, il avait vu toi les pieds. Jésus répondit et lui dit, ce que je fais, bon, je n'ai celui parmi moi de l'enlever le morado après l'avoir trempé. Pierre lui dit, en tant que le morado, il le donne à Judas Iscariote. Jésus lui répondit, si je me lève là, morceau, alors on s'adonne avec moi. Entra en jugement Pierre et lui dit, Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains, ma tête. Aucun de ceux qui étaient à terre, je lui dis, celui qui a tout le corps lavé, c'est que j'ai un besoin que de se laver, puisque Judas avait la boue et Judas lui avait dit. Et vous, si vous êtes bien, vous pouvez nous en rappeler, car vous savez qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, je ne crois pas tout. Il sortit aussitôt. Pendant qu'il eut lavé les pieds, et qu'il reprit ses vêtements, Jésus a remis à table, et il leur dit, savez-vous ce que je vous ai fait? Si Dieu lui aura pour les maîtres, le Seigneur est aussi le bien, car j'en suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds.
Chercherez, comme j'ai dit, ils ont donc le chapitre 13 de l'évangile de Jean Pédoni. Je vous le dis aussi en 13, je vous donne un commandement nouveau. Que vous rendez la paix à l'heure, comme je vous ai Jésus, sachant que son cœur est aussi, pour pas vous aimer l'un dans ce monde, au Père, à ceci, tous pour les aimer les siens qui étaient dans le monde, si vous avez de la main entre jusqu'à la fin. Mon Pierre lui dit, Seigneur, pendant qu'il était à souper, Jésus lui répond, diable, là où vous avez mis dans le cœur de Judas Iscariote, de son nom de l'eau du vrai, plus tard. Jésus a dit, sachant que le Père lui a pris une chose à suivre les mains, et qu'il était venu de Dieu, en descendant dans l'état de Jésus, lui répond, se lève du souper, et il a dit, comment c'est fait, sinon, en vérité, 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 et se met à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge quand il était saint. Il vient donc à Simon Pierre, et celui-ci lui dit, Seigneur, me laves-tu toi les pieds? Jésus répondit, et lui dit, ce que je fais, je ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. Pierre lui dit, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains, ma tête.
Donc,
Jésus me dit, vous en avez qu'à tout le corps lavé, pour maintenant je suis lavé, et vous avez des finesses.
Ce passage de vous, de l'évangile de
Jean, et moi pas tout le
pour une raison,
vous savez qui le livrerait.
C'est pourquoi il nous semble qu'il nous faut revenir.
Pendant qu'il eut le, vous avez des pieds et des pieds, il reprit ses vêtements, c'est un remis à table
auquel il leur dit,
savez-vous ce que je vous ai fait? On m'a pris le maître, le Seigneur, et vous dites, bien car je suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je lavais vos pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds.
On parlait de cette soif de la jeunesse chrétienne à revenir à quelque chose de fondamental, d'essentiel, d'existentiel. Et il a eu cette phrase, oh, l'essentiel, c'est Christ, sa personne, ses paroles, ses actions. Et dans les échanges qu'on a eus avec l'ancien et Frédéric aussi, on a eu ce même souci, ce même désir de revenir à l'essentiel. Et dans ces chapitres de 13 à 17, nous avons les dernières paroles du Seigneur, passées d'ici. Son témoignage public est fini. Il réunit ses disciples dans l'intimité de l'amour et il va leur parler. Alors, on a retenu ces chapitres, bien évidemment, si le Seigneur n'est pas revenu, ils feront l'objet des études l'année prochaine, parce que c'est en deux soirées qu'on va couvrir ces chapitres, même si on on a le désir d'avancer quand même dans cette étude, mais on se penche sur cette parole du Seigneur, sur les dernières paroles du Seigneur. On est tous sensibles aux dernières paroles de notre bien-aimé. Vous savez, quand on a conscience que quelqu'un va nous quitter, lui aussi en a conscience, bien plus que nous. Et il veut nous dire des choses. Mais des choses qui sont toujours essentielles. Il ne s'empare pas de mots qui ne serviront pas pour la suite. Et dans ces chapitres-là, le Seigneur, dans l'intimité de son cœur, réunit les siens. Et il va leur parler de beaucoup de choses. Et il va leur montrer des exemples. Et il va leur laisser un bagage pour continuer leur vie. Dans ces chapitres, on a comme un testament du Seigneur. Il sait, parce qu'il est Dieu, que son heure est venue de passer de ce monde au Père. Il sait que la vie qui va suivre est ma destinée. Donc dans ces échanges, c'est comme un testament du Seigneur à ses bien-aimés. Et nous sommes en 2014, et le Seigneur nous donne encore ce testament plein de fruits. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on se penche sur ces versets. Et ces versets qui nous parlent de son amour et qui donnent finalement comme un condensé de sa mission, ce pourquoi il est venu. Et c'est beau de voir qu'il sait qu'il va quitter ce monde et nous a dit, sachant cela, et il a aimé les siens, bien vu. Il a aimé les siens, il l'a montré, il leur l'a dit d'une manière ou d'une autre. Et bien, il va les aimer jusqu'à la fin. Et c'est comme s'il y avait comme une étape pour le Seigneur à ce moment-là. Son ministère public est fini. La fin de sa course ici-bas arrive, mais il va y avoir cette dimension de l'amour. C'est pourquoi il est venu pour révéler le cœur du Père. Il a aimé les siens, il a fait ce choix d'aimer, et il va aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est aussi un enseignement pratique pour nous. On peut faire des choix, et le choix d'aimer est quelque chose qui est important au cœur de Dieu. Corinthiens 13 nous en parle, ce choix d'aimer. Lorsqu'il nous est dit d'aimer nos ennemis, on a le choix de ne pas garder de la rancune pour eux. Eh bien, il y a des moments, il y a des étapes où ce choix, peut-être par les circonstances que nous traversons, mais peut-être est remis en cause. Eh bien, allez jusqu'au bout. C'est un des bel enseignement du Seigneur qui va aller jusqu'au bout de son amour pour les siens. Une très belle expression. Il a aimé les siens, il va les aimer jusqu'à la fin. Et ça donne le ton finalement de ce chapitre. Ça donne le ton de ce chapitre. Le cœur du Père, le cœur du Seigneur, il était venu pour aimer et il va aller jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'au don de sa vie. Et le Seigneur va montrer par cet exemple du lavage des pieds, une fois de plus, comme il avait pu chez bien des fois, l'inversion des valeurs dont on a l'habitude. Et qui font norme dans notre monde. Plus d'une fois, il est allusion à celui qui serait grand parce qu'il va dernier, ou celui qui sera premier parce qu'il sera dernier, ou celui qui va gagner sa vie ben, parce qu'il va choisir de la perdre. C'est une inversion complète des valeurs qui ont cours, que le Seigneur va mettre en pratique. Et on va voir par ce lavage des pieds qui est une coutume orientale, mais. Les gens marchaient beaucoup à pied, donc c'était un signe d'hospitalité que de laver les pieds. Et c'est le Seigneur lui-même qui va faire ce geste. On est peut-être plus habitué, en parlant de l'esclavage, de ce rôle qu'ont eu les Noirs de frotter les chaussures de leur maître. Il y avait beaucoup d'esclaves, notamment en Amérique. Et il était utilisé pour le service, mais il y avait le moindre des esclaves, c'est celui qui était à l'ombre, dans un coin, et qui frottait à longueur de journée les chaussures des maîtres, des gens de la maison. Et dans la société de l'époque, laver les pieds, essuyer les pieds, eh bien, c'était aussi une tâche vraiment très ingrate. C'était le moindre des esclaves qui faisait cela. Et ça nous montre. Ça a heurté les disciples. C'était des personnes, des disciples comme nous. faut se mettre dans cette optique, le Seigneur les réunit dans l'intimité de son cœur, il va leur parler, il va faire quelque chose à des personnes. Et Judas est là aussi. Avec des émotions, avec des sentiments, avec un vécu, avec une histoire, avec une culture. Et il va faire quelque chose qui va les bouleverser, qui va les choquer. Et c'est un exemple, c'est quelque chose qui nous laisse. Il y a de la tendresse aussi à l'égard de la grâce à l'égard de Judas aussi. Et puis ce chapitre qui se termine par cette notion d'amour. Mais de cet amour que l'on choisit, qui nous conduit jusqu'au bien, de cet amour qui nous conduit à l'abaissement, on retrouve la pensée de Philippiens 2 dans ce chapitre, de cet amour qui est pratique. Et il y a beaucoup à dire sur ces versets. On a peut-être passé un peu rapidement quelquefois en pensant que ce n'était que le service qui était donné à certains pour nettoyer, enlever les souillures, les saletés chez notre frère, eh bien, c'est le Seigneur qui lui s'appelle. Donc on est tous au même niveau, et puis il y a une autre dimension, qui est quand même c'est la dimension de l'amour de Dieu, c'est faire du bien. Déjà, on l'a peut-être vécu quand on a beaucoup marché, des fois on s'arrête dans un cours d'eau, et on se trempe le pied dans l'eau, c'est Dieu rafraîchit. Eh bien, le Seigneur veut faire du bien, il veut les rafraîchir. Bien ce soir, on a demandé la prière aussi, mais que l'on puisse être rafraîchi par ces vérités, que le Seigneur encore aujourd'hui, dans son service d'amour, puisse nous faire du bien par ces vérités. Et il y a beaucoup à prendre, et c'est avec l'émotion qu'on se penche sur ces vérités pour ces raisons qu'on a rappelées, mais ça nous place aussi devant, vraiment devant nos responsabilités et ce que l'amour de Dieu attend. On peut facilement dire je t'aime, j'aime mon frère. Le Seigneur va passer à la pratique dans ce chapitre. Je vous ai montré un exemple. Comme je vous ai fait, faites aussi. Et ça va bien.
L'apôtre Jean écrit ses 5 traités à la fin du 1er siècle. Le traité, pour employer l'expression de lui. On ne sait pas trop quand il a écrit l'évangile de Jean, mais les spécialistes ne sont même pas d'accord, mais on peut penser à la date moyenne de 80. Ça fait 50 ans après les faits. Mais Jean se souvient de tout. Guidé par le Saint-Esprit, il se souvient de tout, nous ne croyons pas à l'inspiration mécanique. Nous pensons que le Saint-Esprit n'a pas vidé les auteurs de leur sensibilité, de leur capacité de mémoire et de leur talent aussi d'écrivain. Et Jean se souvient de tout, il était là, parmi les 12. Et c'est le seul des 4 évangélistes qui a tenu ce récit du lavage des pieds. Et avant d'en parler, il fait une petite introduction de 3 versets dans nos Bibles. 3 versets tellement différents, dans lesquels il dit que Jésus sait 2 choses. Il sait que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Et il sait que le Père lui a remis toutes choses entre les mains. Son heure. Ce n'est pas tout à fait la même que ce qui a précédé, là, quand il dit au verset 27 du chapitre précédent, « Délivre-moi, Père, de cette heure, c'est l'heure de la croix. » Là, c'est l'heure de passer de ce monde au Père. Et comme on l'a déjà dit, tous ces chapitres 13 à 16 sont jalonnés de cette parole et de cette pensée « Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. » Il va partir. Va nous quitter, va quitter ses disciples. Et tout son service, son dernier service est dans cette perspective de son départ du monde. Et dans ce chapitre, il se place, et au chapitre 17, c'est vraiment manifeste, il se place au-delà de la croix. Il anticipe le moment où sur la montagne de Béthanie,
il va quitter les siens.
Et avant de partir, c'est tellement beau, il faut qu'il les assure de son amour. C'est important. C'était important pour les disciples, c'est important pour nous que nous soyons assurés de l'amour de Jésus. Il aime jusqu'à la fin. Alors dans d'autres versions, c'est un tout petit peu différent. Il aime jusqu'à l'extrême. Ce n'est pas tant quelque chose de chronologique, mais c'est aussi la qualité de cet amour. Il va jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'à la croix. Ce n'est pas un amour de second ordre dont nous sommes aimés. Ah non. Et puis, il y a cette pensée, les siens. C'est ceux qui sont à lui. Dans cette salle, il y a ceux qui sont à lui. Et on espère que nous pourrions tous faire partie de cette appellation « les siens ». Et on voit cette pensée déjà dans l'Exode, ces premiers-nés qui avaient été sauvés, qui avaient été épargnés. Dieu dit « ils sont à moi ». Et les Lévites qui sont à leur place, « ils sont à moi ». Ce que Dieu sauve lui appartient. Et encore aujourd'hui dans le monde, il y a ceux qui sont appelés les siens. Est-ce que c'est des personnes de grande notoriété? Est-ce que c'est des personnes qui ont des qualités exceptionnelles? Est-ce que ce sont même des croyants qui n'ont pas de défaillance? Ah non, les disciples avaient des défaillances, mais ils avaient cru. Ils avaient cru la personne du Messie, de Jésus. C'est ça qui fait qu'on est sien. Et c'est cela qu'il aime. Et puis la deuxième chose qu'il sait, c'est que le Père lui a mis toutes choses entre les mains. Alors quand on ce verset, cette expression qu'on rencontre deux fois dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le Père lui a mis toutes choses entre les mains, il faut penser au grand héritier. Il y a une image dans l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre ce que ça veut dire. Au chapitre 24 de la Genèse, Eliezer dit que Abraham a mis toute sa fortune, tous ses biens entre les mains d'Isaac. Isaac, le fils qui en figure a été sacrifié à Morijane et qui est ressuscité, donc l'image du Seigneur Jésus, tout appartient au Seigneur Jésus comme le grand héritier, celui qui est mort et ressuscité. Il a été fait héritier. Hébreu 1, toute chose lui appartient. Alors, toute chose, on le retrouve dans les Épîtres, c'est un peu embarrassant, cette expression indéfinie, mais ça montre que c'est tout le gouvernement du monde à venir, est entre les mains du Seigneur Jésus. Un peu comme tout le gouvernement d'Égypte était entre les mains de Joseph. Joseph, il s'est passé aussi par une image de la croix et de la résurrection, il est ressorti, il est glorieux. Eh bien, Jésus, cette affirmation-là, que Jésus, le Père lui a mis toutes choses entre les mains, donc il a une place suprême d'autorité, eh bien, c'est celui-là qui va s'abaisser à laver les pieds des siens. Il y a un contraste absolu. Il nous faut être sensible à ça. Et entre ce verset 1 et ce verset 2, il y a ce verset assez terrible, ce petit verset 2. On n'aurait pas voulu qu'il soit là, le verset 2. Qu'est-ce qu'il vient faire? Que vient faire le diable entre l'amour de Jésus pour les siens et le Père qui lui a mis toutes choses entre les mains? Oui. Le diable est là. Il sera cité deux fois dans le chapitre. Il aura son agent en Judas. Mais Jésus sait tout. Et nous sommes aussi, puisque les activités du Seigneur ici sont un modèle de ce qu'il fait maintenant pour nous, nous sommes aussi dans une scène, dans un monde où Satan, où le diable agit, mais où Jésus nous aime.
Comme tu l'as dit, seul Jean rapporte cette scène. de même qu'il est aussi le seul des quatre évangélistes à ne pas rapporter l'institution de la scène, les trois autres choses. Et en fait, il est important de se souvenir qu'on est à la semaine de repas. Et nous sommes au début du repas. Même quand on arrive de voyage, et qu'il est trop sale, et on s'attendrait effectivement à un peu d'hospitalité, on est au début du repas. Tu l'as dit aussi, Christophe, on est à une nouvelle étape de la vie du Seigneur. En fait, c'est le début des dernières 24 heures. On est environ à 18 heures, là. 18 à 21 heures, ce sera les chapitres 13 à 17 de Jean, le repas, l'institution de la scène. 21 heures à minuit, il y aura les 3 heures de prière au jardin de Gethsémani. Minuit à 3 heures, c'est l'arrestation, l'entrée chez Anne, chez Caïphe, début du reniement de Pierre. Donc, quand on va parler de Pierre tout à l'heure, on est à quelques heures. On est à quelques heures. À 3 heures du matin, c'est le chant du coq, c'est la fin du reniement de Pierre. De 3 heures à 10 heures, il y a encore cette réunion secrète du Sanhédrin, il y a le procès, finalement, le procès secret de la nuit, à 6 heures du matin. Vendredi matin, c'est le procès officiel. Et puis, on passe devant Pilate une première fois, 6h à 9h du matin, on ira devant Pilate, ensuite Hérode, ensuite de nouveau Pilate. Et on comprend que ça prenne environ 3h. Et puis à 9h, c'est la messie. Jusqu'à midi. À midi, c'est les 3h sombres. Jusqu'à 15h. Et de 15h à 18h, il n'y a plus que 3h pour aller demander l'autorisation à Pilate, pour que Pilate fasse vérifier que le Seigneur soit bien mort, pour qu'on le descende de la croix, et parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps jusqu'au début du sabbat, le coucher du soleil, et bien il sera posé dans ce tombeau tout proche. Voilà 24 heures de passion, 8 fois 3. Et là, les 3 heures qui nous occupent, c'est les chapitres qui sont demain. Et c'est l'institution, le souper d'institution de la scène. Et en fait, on va voir que, avant de prendre la scène, eh bien, il va les purifier d'une certaine manière, avec ce lavage des pieds. Et puis, il va également dévoiler le traître. Et on parlera tout à l'heure de Judas. Il devra sortir. Alors, l'immense contraste entre celui qui a toute chose entre ses mains, les mains, celui qui soutient toute chose par la parole de sa puissance, et qui prend un linge, et qui prend un bassin, on a tout ce contraste entre sa grandeur et son humanité. Et il accomplit effectivement les gestes d'hospitalité. Alors, on se souvient que dans Luc 7, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle, cette femme, elle a arrosé mes pieds de ses larmes. Donc, sous-entendu, ça n'a pas vraiment été une très grande hospitalité. Et elle, par contre, l'a fait par amour. Ou bien Genèse 18, Abraham qui reçoit les anges et l'Éternel. Mais qu'on prenne, je te prie, un peu d'eau et vous laverez vos pieds et vous reposerez sous l'arbre. Donc, vraiment, lavage des pieds, très geste d'humilité dans la façon dont on le pratique. Des gestes d'hospitalité, comme la discussion de rafraîchissement, un moment de détente, un moment d'accueil. Le Seigneur nous accueille aussi à sa table. Il nous invite chaque dimanche. Il est celui qui accueille, il est celui qui rafraîchit. Et alors il se lève du souper. J'ai entendu tout le monde était déjà un peu assis, et on sait que le contexte, c'est les disciples qui se demandaient qui était le plus grand. D'après Luc, on voit que le contexte était, il se posait la question, qui est le plus grand? Parce qu'ils vont s'asseoir quand même les uns à côté des autres, plutôt en position semi-allongée, on le reverra tout à l'heure, quand on verra la conversation avec Pierre, Jean, etc. Donc, position semi-allongée, mais où est-ce qu'on s'assied? Ils étaient remplis de se poser la question, qui va se mettre plutôt à côté du Seigneur, etc., qui va occuper la plus grande place. Et personne n'a eu l'idée de pratiquer la chose simple. C'est lui qui va le faire. C'est un appel à chacun de nous, quand on aura une occasion, on va en faire. Ah, c'est le Seigneur qui va le faire, parce que personne ne l'a fait. Personne ne s'est fait pour le faire. Il a fallu que ce soit lui qui le fasse. Un appel pour les jeunes frères. Des fois, laisse toujours les plus anciens faire la dernière prière, qui est un cantique. Il faut parfois prendre à cœur soi-même. Il faut parfois saisir l'occasion. Et puis ça concerne tout le monde. Il y a un service à accomplir. C'est quand même un petit peu honteux. Il n'est pas lui que ce soit lui qui le fasse. Et cette honte, on la ressent bien sûr chez Pierre. Quand il dit « Jamais, jamais, non jamais, tu me laveras les pieds. » Il sent un peu la mauvaise conscience d'avoir raté l'occasion de
Une chose importante à dire, c'est que à partir de ce chapitre 13, donc de ce chapitre 7, le Seigneur ne s'adresse qu'à ses disciples. Avant, il y a eu des conversations, il y a eu des rencontres avec différentes personnes, les lépreux, etc., tous ceux qui l'avaient guéri, et puis les juifs, bien sûr. Là, c'est dans l'intimité. Et c'est pour nous un enseignement très important. Parce que le Seigneur veut nous parler à chacun, et aussi dans l'assemblée tout entière, parmi les croyants, dans l'intimité. Il veut s'adresser à nous en intimité. Pour éveiller sans doute, peut-être davantage, les esprits de ses disciples. Parce que quand même, ils ont dû se dire avec sagesse, on n'est pas nombreux, on est 12. Eh bien oui, le Seigneur va faire cet enseignement tellement important de ces chapitres, seulement aux 12 disciples. Et puis dans l'action même de notre Seigneur, à partir du verset 3, et tu en as dit un mot là, Frédéric, le Seigneur se lève. On voit qu'il y a 7 actes du Seigneur. 7 actes d'amour. Le Seigneur ne faisait que des actes d'amour, bien évident. 7 actes d'amour. Premièrement, il se lève. Alors pour nous, c'est très important cela. C'est que nous devons aussi chacun, chacune, nous lever lorsqu'il y a quelque chose à faire pour honorer le Seigneur, pour le glorifier, pour le servir. Pour aller voir un malade, etc. Il y a tellement de services, tellement de services. Et bien le Seigneur se lève. Il se lève. Nous aussi, donc, nous devons nous lever. Il se lève, premier acte. Deuxièmement, il met de côté ses vêtements. Deuxième acte. Rien qu'il ne pouvait l'embarrasser ou l'empêcher de faire ce qu'il allait faire. Il met de côté ses vêtements. Qu'est-ce que ça signifie? Nous mettons de côté tout ce qui est de nous-mêmes. Notre petit orgueil passager qui est souvent mis en avant. Nous restons dans l'humilité, dans la dépendance. Nous mettons de côté tout ce qui est de nous-mêmes. Le Seigneur, il n'avait pas besoin de mettre de côté ce qui est de lui-même, bien entendu. Mais il met de côté ses vêtements. C'est symbolique. Donc il met de côté ses vêtements. Et puis il prend un linge. Il utilise, j'allais dire, des outils tout simples de la vie quotidienne. Comme nous aussi, nous avons utilisé des choses tout simples. Il prend un linge. Et quatrièmement, il s'en saint. Et vous savez pourquoi? Pour qu'il soit tout de suite disponible pour essuyer les pieds des disciples. Il s'en saint. Et puis il verse de l'eau dans le bassin. Il n'avait pas commandé à quelqu'un d'autre de le faire avant. Il n'était pas prêt, pour ainsi dire. C'est lui qui fait tout. Alors nous aussi, nous avons à faire des actes souvent très ennuyeux, mais n'oublions pas de les faire. Et que personne ne le sache, si ce n'est le Seigneur Jésus lui-même. Donc, il verse de l'eau dans la salle. Et puis voilà, il commence à laver les pieds de ses disciples. et lui a les essuyer en soin de tout. Allez laver d'abord, allez essuyer ensuite. Quel exemple nous avons là, quelle merveille nous avons là. Que de choses à imiter, chers frères et sœurs, cet acte d'amour authentique de notre Sauveur.
Continuer. Je continue parce que le Seigneur dit à Pierre à la fin du verset 8, si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. En dehors de tous les détails que nous avons rappelés sur ce lavage des pieds, sur l'humilité de celui qui le faisait, le Seigneur aussi, là, vient dire à Pierre, si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Nous avons insisté avec raison sur le fait que le Seigneur est avec les siens. Ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont déjà été mis à part. Mis à part, ils sont à lui. Il dira à son Père, dans le chapitre 17, ils sont à toi. Donc, ce sont ceux qui nous appartiennent. Et le Seigneur, au moment de partir, parce que je m'en vais, c'est une absence qui va, en quelque sorte, être le résultat de son départ. Et donc, il faudrait que ceux qui sont à lui, ceux qui lui appartiennent, il faudrait que cela, une fois que lui ne sera pas là, eh bien, ait le désir d'avoir cette part avec ce. Il sera absent, mais il veut, et je pense que dans tous ces chapitres, le Seigneur va s'attacher à montrer de quelle présence il voudra entourer les siens pendant son absence. Et il s'agit d'avoir une part avec le Seigneur. Alors, une communion, la part, c'est être une communion avec lui. Et elle est heureuse pour nous. Mais elle est désirée par le Seigneur. Il désire cela. Il désire cette part. Et en même temps que ce service qu'il accomplit est un exemple pour ce que nous devons faire, chacun d'entre nous, c'est la suite du chapitre, c'est au départ le fait que le Seigneur désire avoir cette part, qu'il l'aime bien. Il veut que cette communion soit maintenue. Et elle pourrait ne pas l'être. Et nous savons bien qu'il y a une image qui vient nous dérober. De temps en temps, notre Seigneur nous manque. Donc, pensons beaucoup, beaucoup à cela. Dans un deuxième détail que vous avez rappelé sur l'humilité et sur le problème du lavage des pieds. On faut bien garder en présence que dans l'histoire de cette époque, le vainqueur mettait sous ses pieds ses ennemis. Les versets de Psaume 110, aux épaules, la domination et le vainqueur va mettre sous ses pieds ses ennemis. Le pharaon, il y avait autrefois, on peut le voir à travers les livres du musée du Caire, écrit sur ses sandales, il avait écrit le nom des ennemis qu'il avait là, ou sur le socle sur lequel, qui était en dessous de son trône. Donc, là où sont les pieds, c'est là où il y a tous ceux qui sont vaincus, qui sont l'objet de cela. Et lors de la visite d'un de nos frères qui est en Irak, aujourd'hui, il était très surpris de voir que nous mettions nos beaux chapitres par terre. Et il me disait, mais jamais, c'est quelque chose que nous ferions. C'est quelque chose qu'on ne met pas à nos pieds. C'est la place des ennemis, de ceux qui sont là. Donc ceci pour dire aussi qu'il y avait cette pensée d'abaissement et qui était aussi liée à ce
Il faut peut-être encore un peu approfondir cette merveilleuse scène. Avant de penser que, avant de dire que ce qu'il a fait est pas un exemple, il faut nous concentrer sur le service du Seigneur et son service à lui. Et nous pensons que ce service envers ses disciples est un modèle de ce qu'il fait maintenant pour nous, à l'heure où nous parlons. Et ça, c'est évident au chapitre 17, quand il intercède pour les saints, et Romains 8, Hébreux 7, nous dit qu'il intercède pour nous. Donc c'est un service actuel. Et c'est ce chef, ce héritier, ce grand héritier, qui a une place suprême dans le ciel, qui s'occupe de nous, dans ce local. C'est son service à lui d'abord, avant qu'il soit un exemple. Et ceci est confirmé par Éphésiens 5. Alors, c'est développé après dans les Épîtres. Éphésiens 5, le Seigneur Jésus, comme le mari parfait, fait tout dans ce jardin. Et il fait trois choses. Il purifie son assemblée par lavage d'eau par la parole. Voilà notre sujet. Deuxièmement, il nourrit son assemblée. Et troisièmement, il chérit, c'est-à-dire il console. Mais nous n'en retenons que la première, quoi qu'il fasse tout. Et les autres, la nourriture, c'est autre chose, c'est pas le lavage. Le matin, on fait sa toilette, on enlève. Après, on déjeune, on ajoute. Ça donne de la force. Mais donc, on ne peut pas envisager tous les sujets à la fois. Le sujet, c'est du lavage. Et dans ce chapitre 5, donc, de l'Épître aux Éphésiens, c'est le Seigneur Jésus qui fait tout. Et dans le chapitre précédent, ce sont les hommes qui font tout. Alors, il y a moyen de concilier les deux. Généralement, le Seigneur fait par les hommes, comme ce soir. Les hommes, on a dit, quelqu'un disait, ce sont des tuyaux d'arrosage. Il ne faut pas confondre le tuyau et l'eau. C'est l'eau qui est pressionnée, il n'empêche qu'il faut le tuyau pour amener l'eau. Et l'eau, de ce lavage ici, nous comprenons que c'est un symbolisme, là. C'est pas au sens propre, quoi. Il y a des chrétiens qui savent les pieds les uns des autres, bon, ils font encore le faire. C'est bon. Mais c'est surtout le sens symbolique. Alors, l'eau, dans l'Éphésiens 5, nous avons l'explication du symbolisme, c'est la parole. La parole que nous tenons entre les mains, c'est celle-là qui nous sanctifie. C'est par la parole et par l'esprit, la parole appliquée par le Saint-Esprit, eh bien, c'est le Seigneur nous sanctifie ce soir. Et nous pensons que cette purification n'est pas à propos du péché des pères. Non. Parce que dans nos vies, le péché délibéré appelle la confession. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça, c'est autre chose. Mais la souillure, ici, c'est une souillure involontaire. Pas un péché délibéré. Il ne faut pas confondre les deux. Je prends un exemple. Nous avons travaillé tout le jour en éthique, dans des bureaux, et nous rentrons le soir. Nous avons fait le voyage en voiture ou en tram, ou je ne sais quoi, en micro. Bon, on a traversé le monde. Les siens étaient dans le monde. Et nous n'avons pas péché d'une façon délibérée. Mais n'empêche que nous sommes, tout ça, ça nous a pesanti. Nous avons vu des choses qui nous affaiblissent spirituellement. Et, bon, alors, on prend sa Bible et on lit la parole de Dieu. Et les pensées divines nous sanctifient. Il n'y a pas besoin de confesser quoi que ce soit à propos de cette souillure-là. Et par ce moyen, le Seigneur nous sanctifie. Donc là, c'est collectivement. Je prenais un exemple individuel, mais c'est la même chose. C'est son service actuel. Il sanctifie, il purifie son assemblée. Et individuellement aussi. Alors, cet exemple est un modèle. Alors, il y a les deux côtés.
la souillure que nous contractons par le contact avec le monde, mais aussi par le contact avec le visible. Tout le visible s'oppose au spirituel. Là, nous sommes en train de ce soir, dans ce local, de nous occuper de choses spirituelles et non pas de choses visibles. Et les choses visibles, sans parler du monde impie qui tient l'eau du pavé, nous éloigne de ce qui est spirituel, parce que ce qui est spirituel, c'est un autre domaine, d'un autre monde, du domaine de l'esprit, du domaine de Dieu, du domaine de la foi. Alors nous n'avons pas besoin de regarder la nature, même si elle se fait, nous sommes occupés d'autre chose, des pensées divines. Et les pensées divines nous sanctifient. Alors, ensuite, oui, il y a le côté de sanctification, puis il y a le côté du rafraîchissement. Et c'est évident qu'il y a le côté du rafraîchissement, puisque en Genèse 18, comme en Luc 7, dans une certaine allusion, le premier, c'est les anges, et le deuxième, c'est le Seigneur. Donc, il n'y avait pas de souillure coupable, ni dans l'un ni dans l'autre, c'est le rafraîchissement. Et alors, l'exemple, quand nous rencontrons quelqu'un qui est lassé, qui est fatigué, spirituellement, mais qui est dans les difficultés de la vie, qui est agourdi dans sa marche par les épreuves qui s'accumulent parfois. Nous rencontrons ce frère, cette soeur, nous pouvons l'encourager, peut-être que nous sommes maladroits, mais quand même, si nous sommes près du Seigneur, nous allons communiquer quelque chose, quelques rafraîchissements, des fois à notre insu. Nous n'avons pas pensé qu'il est cité que nous sommes plus purs et que nous allons le sanctifier, pas du tout. Parce que là, nous tomberions dans des pensées peu charitables. Mais pensez au rafraîchissement. Il y a un verset qui me fait très envie dans l'épître à Philémon. Quand Paul dit à Philémon, les entrailles des saints sont rafraîchies par vos frères. Ben voilà, c'est un peu aussi ce rafraîchissement. Mais il faut de l'humilité, il faut de l'amour, il faut aimer comme le Seigneur. Un peu du même genre. Enfin, c'est très limité chez nous, bien sûr. Chez lui, c'est absolu. Il nous aime, il nous sanctifie, il nous rafraîchit ce soir.
Un peu de temps. On s'aperçoit dans la lecture, il n'a fait pas de reproche aux deux disciples. À aucun d'entre eux, sans doute qu'il va parler de Judas, bien sûr. Mais il n'a fait pas de reproche. Il ne recherche pas le péché que chacun d'eux a pu commettre dans la journée, par exemple. Il ne fait pas de reproche. Il ne s'occupe pas des classes sociales. On ne s'occupe pas des classes sociales, des différences d'ici, les uns des autres. Vous n'avez pas plus exactement le même métier. Pas de classe sociale. Il apporte du rafraîchissement. L'amour est complet. Complet.
Il y a quelque chose de remarquable, c'est que trois disciples, si l'on compte Judas, les cartons, il y a deux disciples qui vont être rappelés ici. Il y a eu de nombreuses conversations, certainement pendant ce repas. Le repas était long, puisqu'il était allongé, et que s'il a été limité, puisque le temps, le Seigneur le comptait. Il était curieux que le Seigneur s'adresse à Pierre. Voilà. Pourquoi Pierre? Probablement parce que Pierre avait quelque chose à apprendre, dans les circonstances qu'il allait vivre. Et Pierre, ce qui nous surprend beaucoup, c'est malgré sa réponse que nous pouvons peut-être un petit peu rapide, etc. Mais ce que l'on apprécie, c'est c'est l'intimité qu'il y avait entre le Seigneur et Pierre, de telle sorte que le dialogue s'engage et que le Seigneur sait très bien pourquoi il s'est adressé à lui, parce qu'il avait la douceur progressée dans sa foi et dans la connaissance de sa foi. Alors, ce qui me frappe relatif à l'eau qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est l'adjectif net dans ce paragraphe. La netteté, qu'est-ce que c'était qu'être déclaré net dans le cas du Hébreu, par exemple. Alors, cela nous fait distinguer les deux choses qui existent là. On a parlé de la purification par l'eau de la parole, et cela, c'est une étape qui vient après la régénération par le sang. Il y a deux choses qui rendent témoignage, c'est l'eau et le sang. Alors, le sang, c'est pour avoir une part en Christ, et l'eau, c'est pour avoir une part avec Christ. Nous pouvons être nettoyés du péché par le sang du Seigneur Jésus. Mais effectivement, nous avons besoin de la parole de Dieu chaque jour pour nous purifier de telle sorte que nous ayons communion avec lui.
Là, ça mérite qu'on étoffe. Donc, on va étoffer ce point parce que c'est un point de doctrine de ce passage tout à fait essentiel. D'abord, pour le retrouver dans le texte, exactement ce que tu viens de dire, c'est la conversation avec Pierre, où le Seigneur Pierre, on connaît le côté impulsif, évidemment, Pierre toujours à faire des commentaires au Seigneur, toujours à aller vite, bon, on le connaît, et la liberté qu'il a avec son Seigneur est magnifique, comme tu l'as dit. Tu ne me laveras jamais les mains. Si je ne te lave, verset 8, tu n'as pas de part avec moi. Donc, tu n'as pas de communion avec moi. Alors, tout de suite, le côté impulsif qu'on reconnaît chez Pierre, ah, ben Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains. Et c'est là que Jésus explique, celui qui a tout le corps lavé, c'est-à-dire baigné, complètement lavé, et ça se rejoint à ce que tu viens de dire, la régénération, celui qui a le corps baigné n'a besoin que de se laver les pieds. Alors d'abord, sur le plan pratique, celui qui revient des bains publics tout propre, bah, il a plus que ses pieds qui sont un petit peu sales avec ses sandales, donc il a ses pieds, et alors il est tout nu. Ça, c'est pour bien comprendre l'image. Et maintenant, l'image spirituelle, c'est le bain et le bassin. Le bain et le bassin. Donc, on a vu que le Seigneur a pris un bassin. Ça, c'est pour la purification quotidienne. Le bain, le corps baigné, c'est pour le salut. On est une fois pour toutes baigné, et après, on a besoin du bassin tous les jours. Et cette symbolique, elle est à beaucoup d'endroits de la vie. Donc là, la première, ça serait par exemple les sacrificateurs. Le sacrificateur a été sanctifié une fois pour toutes. Je vous donne la référence en Exode 29, tu les laveras avec de l'eau. Ça fait une fois pour toutes. Mais après, c'est la consécration initiale, une fois pour toutes. Mais au quotidien, tu feras une cuve des reins et Aaron et ses fils, ils laveront leurs mains et leurs pieds. Tous les jours. Une fois pour toutes, c'est le bain. Tous les jours, c'est le bassin. La purification du lépreux, avec ce que tu as dit, déclaré tout net. La purification du lépreux, avec la, souvenez, la mort et la résurrection, puisqu'il y avait cet oiseau vivant, mort, pour montrer la résurrection, c'est le salut initial. Alors que la purification avec les cendres de la génitro, c'est le quotidien. Alors, si on a des moyens mnémotechniques maintenant, donc les Anglais, ils aiment bien utiliser les mêmes lettres. Le bain nous délivre de la sentence contre le péché et nous assure l'union au Christ. Donc le bain, le salut, la conversion, une fois pour toutes, la sentence, donc la condamnation, la peine contre le péché, la sentence, et nous assure l'union, on est unis. Et bien sûr, le bassin va nous délivrer de la souillure, pas de la sentence, de la souillure, et ne va pas nous donner l'union, mais la communion. Il y a un petit peu un jeu de mots, mais ça aide à se souffrir. Et alors, j'aurais tendance, et donc c'est l'occasion pour une fois en public, c'est-à-dire qu'on est entièrement d'accord, j'aurais tendance, Lucien, à inclure quand même dans le bassin, donc dans la purification quotidienne, y compris les péchés que nous confessons au Seigneur. Il y a bien sûr l'aspect de la lecture, qui nous rafraîchit et qui nous nettoie même des choses dont on n'est pas conscient. Mais il me semble que dans la communion que nous entretenons avec le Seigneur, il y a également besoin de lui confesser nos fautes et que ça fait partie de cet exercice de purification quotidien qui est notre responsabilité d'aller vers le Seigneur, d'être purifié par lui et de faire la démarche s'il y a un péché effectivement dont on est conscient. Tout ce dont on n'est pas conscient, eh bien, il s'occupe aussi de nous. Le bain et le bain.
On a du mal, je pense, sur ces passages, se rendre compte de l'impact qu'il y a eu sur les cœurs et les consciences de ce que le Seigneur a fait. Et on aimerait avoir cet impact aussi, finalement. Moi, je comprends un peu la réaction de Pierre. Le monde, il est fait sous forme d'une pyramide. En haut, il y a ceux qui règnent. Et en bas, il y a ceux à qui on ne fait pas attention. Très en bas, il y a vraiment ceux à qui on ne fait pas attention. Et dans nos esprits, dans notre conscience, Dieu est grand. Et effectivement, il est. Et on aime le voir grand. Et voilà que ce Dieu si grand va s'abaisser pour descendre en bas de la pyramide. Ce qu'il a fait, il n'y avait pas de mot dans le grec pour décrire ce qu'il a fait. Les théologiens ont parlé de kénos. La kénos du Christ, cet abaissement, il va plus bas que ses disciples. Pour les anobir, pour les aider finalement, pour leur faire du bien. Parce que quand on fait du bien dans l'amour, on élève l'autre, on le relève, on le restaure, on le guérit, on lui donne de l'espoir. Et Christ, par son attitude, il vient faire exploser cette pyramide pour en faire un corps. Un corps où chaque être a sa place, chaque être a sa fonction utile. Il n'y aura pas de petit grain. Tout le monde est ici. Et on comprend que Pierre, il est heurté par cette attitude. Ah non, non, non. Alors, sans doute, je vois, Frédéric, il y avait la honte, effectivement, ils avaient omis ce service. Mais il y a aussi l'impact sur sa conscience. Ah non, le Fils de Dieu, celui qui avait été sur cette montagne de la transfiguration, qui a fait ses miracles, il vient là, carrément en bas de la pyramide. Non, 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 il refuse. Et on voit finalement aussi ce refus dans la foi musulmane. Dieu est grand, Allah Akbar. Mais Dieu couché dans une crèche sur la paix. Dieu qui lave le pied, qui fait une tâche des plus humbles, ça peut. On raconte qu'une comtesse avait eu vent de ce qui avait touché Bernadette de loin. Cette apparition, elle avait voulu voir. C'était quelque chose de grand. Et elle est rentrée dans une maison, elle cherchait Bernadette, et puis elle dit, il faut demander aux gens qui sont supérieurs, qui ont autorité dans la maison. Et elle a demandé, au bout d'un moment, elle lui a répondu, Bernadette, c'est elle. C'est elle qui vous a montré le chemin. Et elle a répondu, c'est ça, Bernadette. Parce que ça ne rentre pas dans nos esprits que ce Dieu si grand, si puissant, qui a fait les cieux et la terre, eh bien, s'abaisse si bas, dans des tâches que l'on méprise, que l'on tient pour méprisage. Et c'est ce qui a bouleversé vraiment les disciples dans cette scène. Et je comprends que Pierre, j'ai refusé, non. Et lui, le Seigneur lui dit, si tu te laves pas, tu n'as pas froid à moi. Je veux cet amour-là, je veux cet amour qui s'abaisse jusque-là. Et je veux que mes disciples fassent pareil. C'est ça aussi, on va le parler. Je veux qu'ils fassent pareil. Je ne te reconnaîtrai pas comme un métier si tu n'as pas cet amour et envoie la fin du chapitre. Et qui a panique. Moi, je ne veux pas être séparé de toi. L'amour tout entier. Comment on aurait peut-être fait dans nos histoires, avec nos personnalités.
m'aurait peut-être réagi comme ça. Et après, la question, c'est ce corps. Alors, qu'est-ce qui fait exploser cette pyramide? Oui, le monde est une pyramide, il y en a tiré sur les autres, il y en a des autres. Mais mon peuple, ma famille en moi, ça va être un corps où tout le monde a sa place, où tout le monde va rentrer en relation les uns avec les autres, avec cet amour qui est notre, cet amour qui descend, cet amour qui me fait me mettre aux pieds de mon frère. Je ne suis plus bas que lui. Tu as déjà mis les pieds de ma hauteur, c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Et puis, il faut s'approcher, il y a bien touché les pieds. Parce que c'est bien touché les pieds. Le toucher de Christ dans nos histoires, là où nous en sommes. Alors, ce corps, vous l'avez dit, hein, ce corps des êtres en relation les uns avec les autres, avec cet amour d'abaissement, elle est là, là, les grandeurs. Et la question, finalement, pour nous, si on veut aller jusqu'au bout, puisque Christ est jusqu'au bout, c'est de se dire chacun pour soi, dans la dernière fois. Dans la dernière fois, j'ai l'air de dire mon frère. Et dans la dernière fois, j'ai placé un pour mettre à ses pieds, pour mettre de côté mes vêtements, pour le toucher, pour l'élever, pour l'anoblir, pour dire, c'est quand la dernière fois. C'est quand la dernière fois qu'on m'a fait du bien. C'est quand la dernière fois que Christ a dit d'un frère ou d'une sœur pour me laver du tir. Et puis il y a aussi le bien qu'on peut faire à Christ. On n'a pas parlé d'elle, mais on a juste des derniers jours. Elle est au pied du Seigneur. Elle a répandu un parfum. Elle a pris ses cheveux. Elle a fait du bien quand il vient. Et peut-être, c'est pas compliqué. Mais dans nos vies, quand on fait confiance au Seigneur pour un sujet, pour un autre, ça lui fait du bien. Seigneur, tu vois, moi, je peux rien faire. Je suis dans une situation qui me dépasse. Mais je me fie à toi. Et bien, ça aussi, c'est la vie pratique. Et il ne nous faut pas passer sur ces passages sans que cela nous ait un impact sur nos consciences et sur nos cœurs. Est-ce que j'aime de cet amour qui est notre? Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout, est-ce que je le souhaite? Est-ce que j'ai ce désir d'entrer en relation avec mon frère, mais ne me pas ce qui? Et ce corps que Christ veut. Et il peut dire à la fin, quand il viendra, c'est à ceci, c'est à cela qu'on va reconnaître que vous êtes le monde. Et c'est pour cela aussi que le Seigneur dit à Pierre, si je te fais là, je ne te reconnaîtrai pas comme étant le monde. Et ça, c'est du coup. Et ça, nous, on ne peut pas se départir, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas entendu le Seigneur, comme si on ne l'avait pas vu faire. On ne peut pas. Les disciples n'ont pas pu échapper à cette scène. Et elle en a porté sans doute l'impact longtemps. C'est pas pour rien aussi que c'est dans l'évangile de Jean, qui était aussi impulsif à sa façon, qui voulait des jugements un peu actifs. Et qu'on rencontre à la fin de ce soir, sa vie avec tellement de douceur, et tellement imprégnée de l'amour de Dieu, de cet amour qui est notre. Sa première vie, et vos matins.
Peut-être aussi frappé par cette expression qu'on trouve aussi dans l'évangile selon Luc, dans le monde de circonstances, pour les aimer, ce saint-là. C'est à la fois se préparer et à la fois se mettre en ordre de marche pour un service, comme dans Luc par exemple, ou ici, pour le combat, comme on peut le voir dans l'épître aux Éphésiens aussi, ou lorsque le Saint-Esprit dit à Pierre, lorsqu'il doit aller donc vers le centurion, eh bien, Saint-Roi. Il me semble que cela aussi procède d'une volonté. Est-ce que nous voulons vraiment vous mettre au pied de nos frères.
Et le Seigneur a passé du temps entre les versets 12 à 17 pour vraiment nous mettre sur le cœur de suivre son exemple. Vraiment, on va le mettre, savez-vous ce que je vous ai fait, m'appelez maître et Seigneur, bien car je suis. Si donc moi, le Seigneur et le maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi, vous devez laver les pieds des anges. Je vous ai donné un exemple afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi, vous fassiez. Je n'ai pas dit ce que vous étiez, mais comme j'en ai fait. L'attitude, cette humilité, mettre au pied, rafraîchir, apporter, tous les détails qu'on a vu tout à l'heure. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. Donc, en fait, il ne nous abaisse pas plus en venant, il nous élève, on l'a dit. Il nous met au niveau, il se met à notre niveau et il nous élève. Et il nous offre finalement la possibilité de servir les autres. Alors, on en a fait parfois, je pense, un contre-sens. Le contre-sens, c'est quand on a cru que ce genre de passage nous permettait d'aller faire une remarque désobligeante à quelqu'un. C'est la même. Ça ne peut pas être ça. Je vais apporter quelque chose de la parole du Seigneur, un rafraîchissement, me mettre tout près et très humblement face à mon ami, mon frère, ma soeur, quelqu'un de la famille de Dieu. Et ça va contribuer, oui, à la communion. C'est le sujet quand même, avoir une part. Ça va donc contribuer à notre communion entre nous. Et aussi à la communion peut-être de la personne avec le Seigneur, mais plus parce que l'attitude d'humilité, eh bien forcément elle fait réfléchir celui qui est à l'autre, beaucoup plus que mon commentaire. Cette attitude de service envers les autres.
On voit aussi deux choses. Premièrement, il leur dit que vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un ordre. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Et puis après, le but du verset 15. Car je vous ai donné un exemple. Afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi, vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, un ordre, vous devez vous laver les pieds, comme je vous ai fait. Ainsi, vous fassiez. C'est intéressant de voir. Les disciples dans ce chapitre, enfin, il y en a deux qui sont nommés, Pierre et Jean. Enfin, Jean se nomme toujours discrètement, c'est un disciple très discret. Et comme on l'a dit déjà, on ne sait pas trop le sentiment de Pierre quand il refuse le service du Seigneur. Soit il dit, tu es trop lent, déjà. Ou alors, je n'ai pas besoin de ton service. Et ça serait plus grave. Pierre pourrait illustrer un chrétien qui dirait, mais je n'ai pas besoin du service du Seigneur maintenant. Je n'ai pas besoin de la parole, je me sens plus. Non, je peux aller m'en faire sans ça.
Et à ce moment-là, ça expliquerait la fin du chapitre. Ça expliquerait le reniement. Maintenant, il n'y a pas une liaison. Bon, finalement, il a eu des dynamés, mais il a quand même réagi. Jean n'a pas réagi. Et Jean, on le voit, sur le sein de Jésus, il était en communion avec Jésus. Il était à l'aise. Il faut peut-être faire une paraphrase pour les jeunes, avoir une part avec lui, être en communion, être dans la liberté avec Jésus. On sent quand même ce que ça veut dire. On sent bien, quelquefois, qu'on a une gêne de prier. On en parle. Mais il faut se servir du Seigneur par la parole, par l'esprit, pour qu'on soit de nouveau à l'aise. On doit dans la liberté avec le Seigneur. Et ça pourrait, l'attitude de Pierre pourrait illustrer à la limite un croyant qui refuserait de se servir ou qui penserait que ce n'est pas important de lire la parole, de prier, de demander d'être éclairé, sanctifié par l'esprit. Et alors, ce croyant, il veille droit à une chute comme Pierre, parce qu'il est affaibli. Pierre est affaibli quelque part, il est affaibli par sa confiance en lui. Et il chute. Mais attention, dans ce chapitre, il ne faut pas confondre Pierre et Judas. Judas illustre quelqu'un qui a suivi le peuple de Dieu, mais qui n'a pas goûté que le Seigneur est bon. Pour reprendre une expression de l'Ancien. Ça fait grave. Et on voit que la grande différence entre Judas et Pierre, c'est que l'un tombe et ne se relève pas. L'autre tombe aussi, mais se relève. Pourquoi? Parce qu'en Judas, il n'y avait pas le nom de Dieu. Cette œuvre du Père n'avait pas pu se faire parce que Judas avait une idole, l'argent était gouverné par une idole qui a pris de plus en plus de place et l'œuvre du Père, comme le Seigneur le dit quelque part dans cet évangile, n'avait pas pu se faire. Parce que Dieu ne fait pas une œuvre dans un homme à son insu contre son gré. Cette personne s'ouvre à l'action de Dieu. Tandis que dans Pierre, le Père avait pu travailler, l'Esprit de Dieu avait pu travailler, et ce que Dieu fait dans une âme est indestructible. Et ce n'est pas une chute qui remet en cause. Pierre se relève, et Judas ne se relève pas. On ne peut pas comprendre. Si on est un croyant, on peut chuter gravement, comme David, par exemple, est un bel exemple. Il a cumulé le meurtre et l'adultère. L'adultère et le meurtre, c'était grave. Mais David s'est relevé de cette chute. Bien sûr, il y a des conséquences de cette fin de marche, mais il s'est relevé. Pierre aussi, d'une façon remarquable. Il a senti la grâce du Seigneur Jésus. Et il a compris après que combien c'était nécessaire ce service. Plein de grâce, et aussi combien on a besoin de ce service du Seigneur, combien on a besoin de l'action de la parole de Dieu, de l'Esprit, pour que cela nous évite un affaiblissement qui peut conduire à une chute.
Mentionner que ce service humble envers les autres chrétiens se pratique aussi beaucoup dans la famille. Vous mentionnez d'abord le verset de 1 Timothée 5, qui parlait des femmes, des veuves, et un des critères de cette femme, c'est qu'elle a élevé des enfants, elle a logé des étrangers, elle a lavé les pieds des saints. C'est un service de rafraîchissement, d'apporter la parole, d'apporter le Seigneur à d'autres chrétiens dans la famille, pour les visiteurs, mais aussi déjà dans le couple. Parce que comme le sujet de du lavage des pieds, c'est quand même lié à cette communion, à cette souillure, cette chose qui salisse, qui sinon troublerait la communion, eh bien, c'est forcément
vraiment très lié à la relation entre les personnes. Et donc, la majesté, il commence déjà dans le couple. Et puis, avec les enfants aussi. Et puis ensuite, avec tous les cercles, personnes qui rentrent dans la maison. Et on n'a pas peur de parler de sujets qui pourraient être des petits sujets d'irritation, qui pourraient être de la souillure. Et on en parle pour nettoyer. Pour que par l'action du Saint-Esprit, de la parole, eh bien, les choses se mettent en place et la communion se développe. C'est quand même très, très, très pratique. Très, très pratique. Et je pense qu'il y a un lien avec le pardon aussi. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme aussi le Christ vous a pardonné. Et la prière du Seigneur, la prière enseignée par le Seigneur, le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Il y a ce côté de. Tu nous purifies chaque jour de nos fautes, et bien nous avons la même attitude envers lui.
Et alors, il y a le verset de notre verset 15-17 plutôt. Et si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si vous les faites.
Donc, il y a un côté, il y a du bonheur dans ce paragraphe. Il y a eu l'humilité. Il y a eu la sanctification, la purification. Et là, il y a un bonheur. Le bonheur, eh bien, de suivre le Seigneur, d'entrer dans son plan, là, d'être à son service, dans des choses, dans des attitudes très humbles, mais pour le rafraîchissement, pour le bien de nos frères et sœurs et des membres aussi de la famille. Il y a un bonheur si on le fait. Pas simplement, évidemment, l'entendre et puis ne jamais mettre en pratique. Mais il y a un bonheur.
Il y a une expression là que j'aime beaucoup. En vérité, je vous dis. Dans l'évangile de Jean, on trouve une bonne dizaine de fois cette expression. En vérité, je vous dis. C'est comme pour ainsi dire des points d'arrêt où le Seigneur nous interpelle. En vérité, je vous dis. On ne peut pas contrer une telle expression. Elle vient de Dieu. En vérité, je vous dis. Et puis il leur rappelle la position. En vérité, je vous dis. Premièrement, l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Mais c'est l'expression que nous voulons signer. En vérité, je vous dis. Leur élan, encore une pensée sur le verset 20, et c'est ce qui rend un peu solennel cette scène et l'enseignement du Seigneur. Celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et ça rejoint Matthieu 25, où le Seigneur dit, en vérité, je vous dis, en tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. Alors là, on a une autre dimension. Voir Christ dans nos frères et dans nos sœurs. Combien de comportements, de remarques, d'attitude serait changée si à la place de nos frères et sœurs, nous avions Christ lui-même. Et c'est pourtant ce qui nous dit. Tout ce que vous faites, ce service, c'est en moi que vous faites. C'est en moi. Et c'est pour ça qu'on trouve cette notion du bonheur. Parce qu'il y a de la joie quand on rentre dans cette relation d'amour avec lui. Il y a de la joie d'aimer Christ. Il y a de la joie de le servir, de vivre pour lui, de marcher avec lui. Mais c'est le maître étalon. C'est le maître étalon quand même. Ce que vous faites à ces petits, c'est moi, pour moi que vous faites. Et ça donne quand même une autre dimension. Alors, c'est pour ça qu'il y a cette exhortation à le faire. Vous m'aimez, vous déclarez que vous m'aimez. Vous avez mon nom à la bouche si facilement.
et vous passez à côté des besoins. Vous passez à côté de ce service. Faites-le. Tu disais tout à l'heure que c'est un ordre. Il répète toujours la liberté humaine. Mais un ordre ou un commandement, c'est l'expression de la volonté du Seigneur. Qui n'est plus ni moins dans la parole. Il veut qu'on fasse ce service. Il veut qu'on l'aime. Et il y a de la joie, et il y a des rétributions, et il y a des bénédictions à faire. Mais ce qui donne la dimension, la noblesse, l'étendue de ce service, c'est qu'on le fait pour. C'est comme si on le faisait. Et c'est pour ça que tu as dit, que tu as souligné cette expression en vérité. Mais pour nous rappeler, là, il y a aussi cette expression-là. En vérité, en vérité. Celui qui reçoit ce que j'ai envoyé, me reçoit. Mais il y a aussi une application. On a parlé du choix tout à l'heure. Faire le choix. Engager notre volonté à faire ce service, à servir Christ de cette manière-là, dans cet enseignement-là. Et bien, c'est nos volontés dont il est question de choisir d'aimer comme ça. Pour ta gloire, pour ton honneur. Parce que ce que je vais faire là, à mon frère, ma soeur, à ce jeune, à cette personne âgée, je le fais à toi. Je le fais à toi. C'est ta puissance. Christ vivant. Et c'est aussi ta vivance.
Juste, merci. Juste sur ce verset, il y a la petite note, celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie, la petite note D, elle dit qui que ce soit que j'envoie. On pourrait bien, des fois, avoir tendance peut-être à faire une sélection, à dire oui, lui je veux bien lui laver les pieds, mais celui-là non, je ne peux pas.